Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelles sont les conditions d'ouverture des ports privés en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui avec le professeur Ursile Lelo Dimakungu, enseignant du cours de droit du transport à la faculté des droits de l'université de Kisangani. Professeur Ursile Lelo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Fidèles auditeurs, vous voulez participer à ce programme? Eh bien, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Patrick Kiasongwa à la mise en onde, Tati Mapuku assure la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination, Jody Daniel Kachama au micro sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Bienvenue à tous.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Quelles sont les conditions d'ouverture des ports privés en République démocratique du Congo? Vous savez, de nombreux ports privés sont créés en toute illégalité le long du fleuve Congo. Ils fonctionnent en marge des principes régissant le domaine public de l'État. Par ailleurs, les gestionnaires de ces ports privés clandestins ferment tout accès aux différents services publics, notamment à la police, la douane, la quarantaine, etc. Le gouvernement envisage la fermeture pure et simple de ces ports. Quelles sont alors les conditions d'ouverture et de fonctionnement des ports privés en République démocratique du Congo? Professeur Ursile Lelo, encore une fois bonjour.
Bonjour, je précise que je suis professeur à la faculté de droit de l'université de Kisangani et vice-doyen chargé de la recherche.
Bien, vous êtes aussi vice-doyen chargé de la recherche. Alors, dites-nous, professeur, nous parlons des ports privés. D'abord, aidez-nous à comprendre c'est quoi un port.
En réalité, un port, c'est un lieu d'accostage des bateaux. Et notre pays a un problème sérieux parce que nous n'avons pas une politique nationale portuaire. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, le pays n'est pas doté d'un schéma directeur portuaire national. En plus de cela, il n'y a pas une gestion autonome même des ports de l'État. Au-delà de tous ces tableaux sombres, c'est que l'autorité portuaire est confiée à une société privée qui est la SCTP, la Société commerciale des transports et des ports.
L'ex-ONATRA.
Oui, à travers le désengagement de l'État, toutes les entreprises publiques avaient été transformées en sociétés commerciales. Et de là, il se dégage une double confusion dans le chef de l'État congolais, à savoir le rôle de l'État entrepreneur et le rôle de l'État régulateur. En principe, si l'État pouvait exploiter toute l'expertise nationale, il serait important que le pays soit doté d'une autorité de port. Que le pays soit doté d'une autorité portuaire nationale. Ce que nous n'avons pas, c'est la SCTP qui joue le rôle de l'autorité portuaire nationale. C'est ce qui est à la base de tout ce que vous venez de décrire.
Professeur, si je comprends bien, disons le monopole de la création et de la gestion des ports est confié seulement à la SCTP. Revient à la SCTP,
oui,
si on peut le dire ainsi.
Oui. En fait, c'est que d'abord, sur le plan du droit, il y a lié d'analyser la portée de l'ordonnance numéro 71-307 du 3 décembre 1971 qui accorde le monopole de gestion et d'exploitation des ports à la SCTP dans les biefs maritimes. Ça, c'est un fait. Mais un autre fait, c'est que cette ordonnance est tombée en désuétude. Pourquoi cette ordonnance est tombée en désuétude? Parce que la République démocratique du Congo, à travers sa constitution, est dans la logique du libéralisme économique. Et que dans notre pays, il n'y a pas de monopole. Voilà les secteurs comme le secteur de l'électricité, et le secteur de l'eau, le secteur même des transports, en partie, a été libéralisé. Le secteur aérien a été libéralisé. D'autres secteurs aussi ont été libéralisés. Mais au niveau des secteurs des transports maritimes, voire fluvial et lacustre, il se pose un grand défi. Quel est le vrai défi? C'est qu'il n'y a pas une réforme du secteur des transports qui a été engagée. Le pays devait plutôt mettre en place, à travers des experts, des professeurs, des techniciens, mettre en place une commission nationale de réforme des secteurs des transports pour doter les pays d'une politique nationale portuaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à l'absence d'une politique nationale portuaire, à l'absence des schémas directeurs portuaires nationaux, à l'absence de l'autorité portuaire nationale, et imaginez-vous que la régulation du secteur portuaire soit confiée à une société commerciale, ce sont des abus des droits,
professeur,
et des errances juridiques très graves.
Oui, et cela veut dire que cette loi, cette ordonnance de 1971 ne tient plus, parce que l'ONATRA, l'ex-ONATRA a changé de statut, ce n'est plus une entreprise de l'État, maintenant c'est une société commerciale, d'où cette loi doit également être revue.
Non seulement que l'ordonnance est devenue obsolète, c'est que la République démocratique du Congo est confrontée à un défi de la gouvernance portuaire et que notre gouvernance portuaire est archaïque et ne répond pas aux exigences des standards aussi bien internationales que sous-régionales. Et voilà pourquoi nos installations portuaires ne sont pas compétitives. Pourquoi? Parce que en principe, la décision de la réunion du Conseil des ministres, au mieux la 46e réunion tenue du 28 août 2020 du Conseil des ministres, qui a décidé de la fermeture des ports privés illégaux et clandestins, n'a pas apporté de solutions idoines. Il faut des solutions en amont et en aval. Et cette solution en amont passe par la réforme du secteur des transports en République démocratique du Congo, qui doit être sanctionnée par la mise en place d'une politique portuaire nationale, mais également par l'instauration d'une autorité portuaire nationale. Et en réalité, quel est le rôle d'une autorité portuaire nationale? Il s'agit là d'un établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, comme dans le secteur de la télécommunication, il y a l'ARPT qui s'occupe des régulations des postes de télécommunication, comme dans le secteur des assurances, il y a une autorité de régulation. On devait aussi avoir la même situation dans le secteur portuaire.
Professeur, et là, professeur cet établissement... Ursula. Professeur Ursil, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir les auditeurs. Nous avons en ligne Dodé. On commence avec Dodé de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour la radio Kapi. Bonjour aussi à l'invité et à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Quelle est votre préoccupation, Dodé?
Bien, comme je l'ai fait remarquer dans mon commentaire sur la page Facebook, la décision prise par les autorités est salutaire. Dans la mesure où nous avions en fait vécu tant de multiplicités de ce genre de ports illégaux, et en plus cela faisait à ce qu'il y ait beaucoup de tracasseries. À mon égard, la mesure est bonne, mais je demanderai que les autorités...
Dodé, jusqu'à là, il n'y a pas de mesure. Hein. Je pense que c'est le gouvernement envisage est en train d'envisager la fermeture de ces ports-là.
Oui, c'est dans la même perspective que j'encourage une telle décision et que ça aboutisse à des fins. Parce que vous en savez que au Congo, des antivaleurs sont devenus les mots de vie. Ceux qui pratiquent sont en fait encouragés et ceux qui pratiquent la probité deviennent des idiots. Donc, de telles mesures, nous aimerions que ça aboutisse que tous les ports illégaux, car cela favoriserait aussi l'écoulage des recettes, que tous les ports soient en fait fermés et que les auteurs soient sanctionnés. Parce que nous ne devons jamais en fait garantir l'impunité. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, monsieur le journaliste.
Bien, merci Dodé de Lubumbashi. Willy Kembe, vous êtes à Cabinda. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui. C'est comme on a laissé les commentaires sur Facebook. Nous sommes en train de regretter. On s'attendait à l'ajout. Et bientôt là, on nous parle de la diminution. Oh, ce qui va pousser à ce que le nombre de chômeurs commence à augmenter. Alors on se pose la question de savoir, les ports qui sont devenus illégaux aujourd'hui ont commencé quand? Ils ont existé avec quel texte? Et ceux qui veulent les supprimer aujourd'hui, vont-ils les remplacer par quel poste à ce même endroit où ils vont créer d'autres endroits où les gens vont commencer à exécuter leur mission? Ou bien, on voit que c'est la politique qui joue. Donc chacun a besoin de maintenir sa signature. Il ne veut pas maintenir la signature de son précédent. Donc c'est devenu compliqué.
Bien, merci Willy Kembe depuis Cabinda. Professeur Ursule Lelo, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. Vous avez la parole.
Oui, en fait, comme je suis en train de le dire, le pays devait plutôt se doter d'une autorité portuaire nationale qui devait être un établissement public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et une autonomie financière. C'est cet établissement-là qui devait jouer le rôle de bras séculier de l'État pour la mise en œuvre de la politique nationale portuaire du pays. C'est que le pays doit d'abord se doter d'une politique portuaire nationale que nous n'en avons pas pour l'instant. Et en conséquence, nous sommes en difficulté pour la construction, la valorisation et la promotion de l'espace portuaire du pays.
D'où la
conséquence de cette inorganisation et on assiste à l'émergence des ports privés illégaux et clandestins parce que le secteur n'est pas bien organisé. Voilà pourquoi il faut des réponses en amont et en aval.
Professeur, actuellement, quel est le service qui octroie des autorisations à ces opérateurs qui fonctionnent, qui ont des ports privés?
La plupart de ces ports privés fonctionnent dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que le secteur n'est pas bien organisé. Il y a une insécurité juridique et une insécurité judiciaire. Pourquoi? Parce que quand le cadre juridique n'est pas clair, il y a les uns qui peuvent s'adresser au ministère provincial des transports et d'autres qui peuvent s'intéresser au niveau national et d'autres qui vont s'intéresser à l'OCPT et comment une société peut agréer un autre opérateur économique. C'est que on est dans une situation d'insécurité juridique parce qu'on n'a pas un cadre légal clair. Pourquoi? Parce que le secteur reste encore dominé par le monopole à travers un cadre juridique anachronique qui est tombé en désuétude. Et voilà pourquoi il faut que le pays se dote d'une autorité portuaire nationale qui doit mettre en place un cadre légal avec des normes claires pour assurer aussi bien la supervision des activités portuaires, mais également la régulation des activités portuaires, ainsi que un cadre de suivi et des évaluations des activités portuaires. Alors, si vous le permettez, en matière de supervision des activités portuaires, l'autorité portuaire nationale joue en principe un rôle clé dans la planification du développement portuaire national, l'élaboration en concertation avec les organisations portuaires du schéma directeur portuaire national, encore que la gestion de nos ports sont tout à fait atypiques, parce que des ports tels que le port de Boma, le port de Matadi, le port de Banana devaient plutôt avoir des statuts autonomes et assurer même une certaine compétitivité, une certaine autonomie, et que la SCTP pouvait peut-être se focaliser dans le rôle des manutentionnaires. Encore là, la SCTP bénéficie encore d'un certain monopole, et ce qui ne permet pas que notre secteur portuaire soit tout à fait compétitif et enregistre une certaine éclosion. Et voilà pourquoi nous assistons à cette situation d'émergence des ports illégaux et voire clandestins.
Professeur Ursil, faut-il aujourd'hui fermer tous ces ports-là ou bien les appeler à régulariser leur situation?
Je pense bien qu'il y a d'une part la responsabilité importante de l'État, parce que l'État doit d'abord organiser les secteurs et mettre en place une procédure de revue de ces ports et voir quels sont les ports qui peuvent répondre dans les normes et comment les accompagner, parce que l'État ne joue pas seulement le rôle de la répression, mais l'État joue aussi le rôle d'encadrement, et il est important que l'État mette en place des structures spécialisées à travers l'autorité portuaire nationale pour que tout se passe dans la légalité, parce que le plus souvent la mise en place d'une infrastructure portuaire demande beaucoup d'expertise et beaucoup de capitaux que généralement nous n'en avons pas. Et quand on essaie de faire la radioscopie aussi bien des ports de l'État que des ports privés, le constat est amer, parce que l'accessibilité est difficile, il y a manque d'équipement, manque d'efficacité des opérations portuaires. Ces ports sont non adaptés à la manutention des navires spécialisés comme le porte-containers. Il y a insécurité portuaire par-ci par-là, avec des phénomènes Banamaï, Banaimboa, et il y a pillage des marchandises non comptérisables, et vous avez des difficultés de fonctionnement du guichet unique. Et à ces tableaux sombres s'ajoute la multitude de services au sein du port et alourdissement de la procédure de dédouanement. Et tout ça, ça ne permet pas que nos ports, que nos installations portuaires soient tout à fait compétitives. Et à cela, s'il faut encore ajouter, il y a la manutention des marchandises qui demeure encore dans un état archaïque et qui ne répondent pas au management actuel des navires, parce que généralement, lorsqu'un bateau accoste ou un navire, le propriétaire ou les armateurs n'acceptent pas de passer beaucoup de temps. C'est ainsi que vous le verrez, que lorsqu'un navire doit venir en République démocratique du Congo, le coût est trop élevé parce que on tient compte de tous ces paramètres-là. D'où la nécessité des solutions en amont et en aval, parce que en réalité, la fermeture n'est pas une décision efficace, parce que combien de fois l'État a osé déjà fermer des ports ou même fermer des services au niveau des aéroports, voire des ports et d'autres liens, mais on revient toujours à la case de départ, parce que les actions de l'État doivent s'inscrire dans la logique d'une politique et doivent avoir des outils stratégiques en termes d'un schéma national directeur portuaire national, et aussi donner une certaine autonomie à ces ports de la SCPT pour que ces ports soient tout à fait compétitifs. Mais aussi, nous ne pouvons pas nous contredire. Le gouvernement ne peut pas se contredire, parce que nous avions fait un choix du libéralisme économique et que le secteur privé n'est pas toujours un secteur porteur d'illégalité. Le secteur privé doit être conçu comme un secteur de croissance et un moteur de développement.
Oui, professeur.
Et l'État doit créer des conditions propices.
Oui, on a l'impression qu'il y a une sorte de concurrence déloyale de ces ports avec la SCTP qui bénéficie du monopole jusqu'à prouver le contraire.
la SCTP bénéficie d'un monopole qui pose problème par rapport à notre constitution. Et de l'autre côté, la SCTP elle-même n'est pas compétitive avec tout ce que nous venons de décrier comme un état de lieu catastrophique de nos ports. Mais de l'autre côté, au lieu que l'État puisse capitaliser les opportunités de la libéralisation du secteur, et nous pensons que c'est une question de volonté politique, et le fait de prendre des mesures de fermeture, et nous pensons que le gouvernement a été induit en erreur et qu'il y a lieu de réfléchir autrement pour que ces ports privés puissent être accompagnés et que ça soit modernisé et que même la SCTP aussi puisse s'inscrire dans une dynamique de réforme. Et nous pensons que la libéralisation n'a pas toujours un caractère ou une connotation négative. Nous avions vu dans le secteur des télécommunications, nous avons des sociétés telles que Vodacom, Orange, Airtel et consorts, et Africell, et ces sociétés sont dynamiques. Et voilà une des preuves de la privatisation qui a réussi, parce qu'il y a des autorités de régulation,
bien.
Il y a un cadre,
professeur,
et il y a une politique.
Professeur Ursule, nous allons accueillir des auditeurs. Sylvain de Kananga et Valentin est également dans la même ville. Sylvain, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour aux auditeurs et auditrices de la Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est la suivante par rapport à la proposition de loi que le gouvernement cherche à mettre en œuvre.
La proposition de fermer les ports illégaux, les ports privés, illégaux et clandestins.
Oui, bien sûr. En personne, nous avons salué cette initiative car c'est à travers ces ports illégaux que les intrus pénètrent dans le pays et c'est là qu'ils créent des mouvements insurrectionnels et le pays est tout le temps dans l'insécurité. C'est pourquoi nous-mêmes nous avons salué et nous attendons à ce que cette initiative soit concrétisée dans notre pays.
Bien, merci. Valentin, vous êtes aussi à Kananga. Bonjour.
Oui, c'est Valentin à Ilebo, Kassai, ce n'est pas à Kananga. Bonjour,
monsieur le journaliste. Bien, vous êtes plutôt à Ilebo. Bonjour, Valentin, quelle est votre préoccupation?
Ok, je voudrais savoir concernant cette mesure pour le projet de la suppression, de la fermeture des ports fluviaux et la quisse illégaux. Ce sont des ports qui causent des cas de mauvais embarquements. Alors, quelles sont les mesures prises par le gouvernement après cette fermeture concernant la tracasserie des services de l'État dans ces différents ports fluviaux et la piste Lego? Il faut que ce soit un projet au profit de la population au lieu du mouillement. C'est ça au moins un peu ma préoccupation.
Bien, merci. Professeur Ursile, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Ce que je peux dire à ces deux auditeurs, c'est que l'État joue des rôles d'un État régulateur et d'un État entrepreneur. Et en prenant seulement la position pour la fermeture des ports privés illégaux et clandestins, sans pour autant promouvoir l'approche de privatisation du secteur qui a été déjà déclenché et sans pour autant apporter des solutions idoines par rapport à la SCTP. Et dans tous les pays du monde, il a été démontré que le monopole dans les secteurs portuaires a toujours des limites. D'où la nécessité de mettre en place une approche libérale et permettre l'éclosion aussi bien des sociétés d'État et des sociétés privées ou des opérateurs privés. Et en conséquence, l'approche policière.
Vous avez suivi Sylvain,
doit plutôt Sylvain intervenir.
Oui, Sylvain de Kananga.
En aval.
Sylvain de Kananga a dit que ces ports peuvent constituer des points d'entrée des ennemis du pays ou des personnes mal intentionnées.
Effectivement, ces ports peuvent servir des liens d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais comme vous le savez, si l'État veut réduire l'ampleur d'émergence ou de prolifération des ports privés, L'État doit tenir compte de la dimension de la privatisation des ports et mettre en place des politiques efficaces en termes de politique nationale portuaire. Pourquoi? Parce que l'État peut réduire l'ampleur ou résorber l'ampleur de l'émergence des ports privés illégaux et clandestins par la formalisation du secteur, en mettant en place un cadre juridique attractif susceptible de pousser tous ces ports qui fonctionnent illégalement et de manière clandestine à évoluer dans la légalité et dans le respect des normes. Parce que l'État peut fermer, mais il ne peut pas réduire l'ampleur. Et pour réduire l'ampleur, il faudrait ces solutions à la fois en amont et en aval et avec des services appropriés pour faire les suivis. On ferme, mais demain, combien de fois on a déjà pris des décisions de fermeture dans ces pays? On ferme aujourd'hui et demain, ça s'ouvre. C'est qu'il y a une nécessité de prendre en place une approche holistique et en mettant en place des réformes structurelles parce que ce qui se fait chez nous ne se fait pas ailleurs parce qu'il y a un cadre de politique publique de transport tout à fait approprié en matière spécialement de la politique portuaire au niveau national, régional et international. Et c'est cette politique que nous manquons. Et il ne faut pas s'attaquer seulement aux symptômes. Tout ce que nous voyons comme port illégal, port clandestin, ce sont des symptômes. Alors, il faut plutôt s'attaquer aux causes qu'aux conséquences. Et nous, comme scientifiques, et nous, comme chercheurs, parce que cette question de transport est analysé dans notre laboratoire, qui est le laboratoire interdisciplinaire des droits et développement durable, comme étant des services basés à l'université de Kisangani. Nous sommes plus intéressés par la dimension structurelle. Quelles sont les causes d'émergence des ports privés illégaux et clandestins? Et voilà les solutions les plus idoines que nous proposons, qui est d'avoir des solutions policières ou émotionnelles et qui, au finish, nous ramène à la case du départ.
Bien. Valentin, depuis Ilebo, nous dit que c'est à partir de ces ports-là qu'il y a des embarcations des fortunes qui font le surchargement et après, il y a des accidents. On a déploré plusieurs fois dans ces pays des chavirements, des embarcations avec des pertes en vies humaines et des pertes des biens.
Et effectivement, tout ça, c'est la conséquence de la désorganisation de la politique portuaire au niveau national. C'est la conséquence directe. Et voilà pourquoi nous disons, il ne faut pas des solutions cosmétiques, des solutions conjoncturelles, mais il faut des solutions structurelles et qui passent par des évaluations stratégiques. Il faut diagnostiquer les secteurs portuaires nationaux pour dégager quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces et comment transformer ces externalités négatives en externalités positives avec des orientations stratégiques afin que l'État congolais se dote d'un document stratégique en termes de politique nationale portuaire afin de se doter d'un bras séculier important, à savoir l'autorité de régulation portuaire et communément, dans tous les pays, la formule, c'est autorité portuaire nationale. Et nous ne pouvons pas nous écarter de cette logique universelle.
Professeur, mais actuellement, quel est le service de l'État qui octroie des autorisations d'ouverture des ports? Est-ce qu'il existe un service qui s'occupe de tout cela?
Actuellement, il règne un désordre. Pourquoi il règne un désordre? Parce que moi, je suis juriste, docteur en droit économique et docteur en droit public. En droit, la compétence est d'attribution. La compétence est d'attribution et l'incompétence est la règle. Mais le fait que même le secteur portuaire ne soit pas organisé, parce que avant de dégager les services compétents, il faut d'abord organiser les services avec un cadre légal approprié. Et nous avons des ports privés appartenant à des sociétés qui obtiennent des autorisations à partir du ministère
des transports
au niveau national Mais aussi, la question devient aujourd'hui plus complexe avec la décentralisation parce que le secteur devient concurrent entre le pouvoir central et les provinces, mais également les attributions des compétences ne sont pas claires entre ces ministères, il n'y a pas de coordination et tout ça, c'est ce qui est à la base de toutes ces émergences de caractère informel ou voire d'illégalité ou d'illégalité. Alors voilà un peu le désordre qui règne dans les secteurs et que les gens n'ont pas toujours le courage soit de les dénoncer ou soit pour comprendre la complexité du secteur parce que on est parti d'une situation de monopole, hein. On est parti d'une situation de monopole où il y avait l'Office Office National des Transports et ONATRA et il y a la transformation et à travers la transformation, maintenant, il faut organiser les secteurs. En organisant les secteurs, il devait y avoir un établissement public qui devait jouer le rôle de régulation et aussi les concessions portuaires devaient être attribuées par l'État par voie d'adjudication au niveau des marchés publics. La première question à se poser, comment ces personnes ont parvenu à acquérir ces ports. Entre-temps, il y a une confusion qui règne entre la propriété foncière et la concession portière. Et moi, comme spécialiste, je ne fais pas encourager ou endosser cette illégalité. Et voilà pourquoi nous vous disons que le vide juridique est criant et que le cadre légal, à savoir l'ordonnance numéro 71-307 du 3 décembre 1971, où le Conseil des ministres a pu tirer son soubassement pour envisager la fermeture de ces ports, n'est qu'un coup d'épée dans l'eau parce que le texte est déjà anachronique, dépassé, obsolète. Et voilà pourquoi le gouvernement et le président de la République, parce qu'il s'agit d'un secteur stratégique, doit prendre le courage pour essayer d'engager le plus rapidement possible la réforme du secteur des transports parce que déjà, il y a un protocole d'accord et jumelage entre l'OCPT, disons la SCPT et le port d'Anvers. Et la SCPT a été, le gouvernement a confié à la SCPT la mission d'engager des réformes. Alors voilà un peu encore des confusions qui règnent dans le secteur lorsque l'État confie toute une réforme d'un secteur à une société commerciale. C'est de l'irresponsabilité. Alors que,
professeur Yossi, oui. Professeur Ursule, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'accueillir un auditeur, Albert de Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à Radio Okapi et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Nous parlons des conditions d'ouverture des ports privés en RDC. Quelle est votre question, Albert?
Oui, ce n'est vraiment pas une question. Je voulais juste donner ma contribution. Alors, à mon humble avis, je vois que aller vite à la fermeture des ports serait un manque à gagner pour l'État congolais. D'autant plus que la législation en la matière n'a pas été efficace. Alors, ce qui peut être une mesure idoine, c'est celle de pouvoir renvoyer ces ports informels dans les secteurs formels afin que cela puisse aussi être bénéfique à l'État congolais et aussi, en même temps, sauvegarder ou encore garantir l'emploi pour nos jeunes frères et sœurs qui sont engagés dans ces ports. C'est oui. Ça, ce qui était comme mon point de vue.
Albert, dites-nous, à Kisangani, aujourd'hui, fonctionne combien de ports privés?
Il y en a nombreux que je ne saurais pas imaginer comme ça. Il faudrait parler de la réalité. C'est ça.
Voilà, il y en a nombreux à Kisangani. Alors, professeur, oui. Merci d'avoir appelé Albert de Kisangani. Alors, professeur Ursule Albert de Kisangani a rejoint carrément votre point de vue. Ne pas fermer, mais plutôt demander à ces entreprises de se conformer à la législation qui, d'ailleurs, est obsolète. Il faut réformer aussi les cadres juridiques.
Allô, je suis à votre disposition.
Bien, vous avez suivi Albert de Kisangani dit qu'on ne devrait pas fermer ces ports. On doit les laisser fonctionner, mais ils doivent régulariser, les responsables de ces ports doivent régulariser leur situation parce qu'il y a, on risque d'envoyer au chômage toutes ces personnes qui travaillent au niveau de ces ports-là.
En réalité, il faut organiser les secteurs, il faut organiser les secteurs et la mission de l'État n'est pas seulement la sanction, la mission de l'État, c'est aussi l'encadrement du secteur et en principe, il devait y avoir un travail tout à fait technique entre le ministère des Transports, la société civile comme le bénéficiaire, les garants, les défenseurs des consommateurs de ces ports, mais également avec la Fédération des entreprises du Congo ou d'autres syndicats patronaux pour essayer de voir avec des opérateurs des secteurs pour engager d'abord dans un cadre inclusif un débat pour faire un état des lieux, savoir quelles sont les contraintes, quelles sont les pistes de solutions et avoir un moratoire. Mais aussi, il y a des solutions à court terme, comment faire en sorte que les services de l'État puissent être redéployés dans ces différents ports et aussi comment l'État compte mettre en place un cadre juridique adapté, approprié et comment préparer les opérateurs du secteur vers la transition pour quitter cette situation de l'illégalité ou de clandestinité vers la situation de la légalité. C'est que du point de vue de la réforme institutionnelle, on parle de la transition. Et cette transition s'impose. Et bien. Parce que si l'État décide de fermer avec brutalité, il y a le chômage, il y a des tensions, tout ça, et ça risquera d'être une mesure contre-productive pour l'État. Et nous pensons peut-être que avant de prendre un cadre juridique qui nécessitera beaucoup de temps, l'État peut mettre en place, par exemple, à travers, selon les attributions, un décret du Premier ministre pour organiser rapidement les secteurs en attendant encore une organisation plus approfondie ou soit un arrêté du ministre pour essayer de mettre en place un cadre de conformité en attendant de mettre en place un cadre juridique approprié. Et ça peut permettre qu'il y ait un suivi que de prendre une décision sans mesurer les conséquences. On risque de chercher à résoudre un problème en créant encore un problème de plus en plus complexe que l'on ne saurait pas mesurer parce qu'il faut aussi évaluer quel est le travail que ce port offre à nos compatriotes et au-delà de l'informalité, quels sont les services que ce port sont en train de rendre à la société et tout ça, ce sont les dimensions tout à fait cardinal qu'un État, qu'un gouvernement responsable doit prendre en considération parce que tout est parti de la défaillance de l'État, du manque d'anticipation et du manque d'une vision stratégique.
Bien, quelles sont les conditions d'ouverture des ports privés en République démocratique du Congo? On en parle avec le professeur Ursile Lelo, il est expert en droit des transports à l'université de Kinshasa et vice-doyen chargé de la recherche, à l'université de Kisangani. Il est également vice-doyen chargé de la recherche. Des questions et préoccupations, appelez-nous, non, n'appelez pas, écrivez-nous plutôt à service@radiookapi.net.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Joseph nous appelle de Kalemi. Bonjour.
Bonjour, Fodi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux conditions d'ouverture des ports privés?
Oui, exactement. J'ai quelques idées à émettre. Je vous remercie d'abord pour les thèmes.
D'abord, Joseph, vous êtes à un endroit où il y a beaucoup de bruit. On entend beaucoup de bruit à la radio, c'est pas intéressant. Veuillez vous.
Vraiment, je me déplace.
Oui, veuillez vous déplacer, aller à un endroit beaucoup plus calme.
Là, ça va?
Voilà, ça va maintenant. Allez-y.
Vraiment. Comme vous le savez, nous sommes à Kalemi, là où il y a le lac Tanganyika et la province de Tanganyika où nous avons le fleuve Congo. Moi, j'avais à saluer ces projets. Si le gouvernement veut, par exemple, bannir les petits ports là-bas, qui existent là où les recettes d'abord n'entrent pas dans les trésors, c'est un projet à saluer. C'est que moi, j'aimerais peut-être dire comme j'ai au moins des questions. Et en bannissant les petits ports qui existent dans les lacs ou dans les fleuves Congo, quel est le projet aussi que conçoit le gouvernement pour l'encadrement de ces paisibles citoyens qui vivent au détriment ou bien à travers ces petits ports qui existent? Quand je le dis, parce que les gouverneurs actuels l'ont essayé dans le lac Tanganyika, là, il y avait des petits ports qui ne servaient à rien pour le compte du gouvernement. Mais la population n'avait pas bien digéré et accueilli ces messages. Et beaucoup vivent maintenant le chômage. Maintenant, en bannissant ces projets, ces petits ports qui existent, est-ce que le gouvernement aussi conçoit sous l'encadrement de ces paisibles citoyens? Deuxième préoccupation. Lorsque vous passez dans des petits ports, par exemple, dans les fleuves Congo, les ports de Kongolo, de Kabalo, d'Ankoro, etc., ou bien dans les lacs Tanganyika, ici, des petits ports, vous allez trouver dans chaque petit port, il y a des agents de l'État. Par exemple, les DGM, Service des commissariats maritimes, hygiène, tous ces gens là-bas. J'ai une question à poser. Jeune de quel gouvernement? Voilà un peu ce que j'avais à poser, M. Jody, comme préoccupation dans ce projet.
Bien, merci Joseph de Calémy. Bien, nous poursuivons cette émission avec professeur Ursile Lelo. Vous avez suivi la préoccupation de Joseph de Calémy. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Je crois que nous revenons toujours à la case de départ.
Oui.
Nous revenons toujours à la case de départ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation de monopole où il faut aller vers la démonopolisation du secteur et mettre en place une politique idoine en matière de gestion portuaire et même en matière de politique de transport pour permettre l'éclosion du secteur privé. Parce que si nous essayons de voir, par exemple, dans le Kivu, spécialement le nord et sud Kivu, les transports ne posent pas problème parce qu'il y a un secteur privé dynamique qui met en place des infrastructures appropriées pour l'éclosion de ces secteurs qui est tout à fait stratégique pour ces deux provinces. Alors, autre élément, il faudra aussi prendre en compte la décentralisation parce que le secteur des transports, c'est un secteur transversal. Il y a des ministres provinciaux à charge des transports et qui doivent aussi, avec les opérateurs économiques, les syndicats patronaux, voir dans quelle mesure mettre en place des politiques d'idoine pour que l'exemple, par exemple, du Kivu soit copié. Parce que c'est la même question que nous nous posons à Kisangani. Lorsque vous vous déplacez à Goma ou à Bukavu, vous regardez les bateaux qui sont construits par les privés, les investissements privés dans les secteurs, et il y a lieu de croire que la libéralisation constitue plutôt une opportunité et que l'État devait se doter des équipements nécessaires pour la valorisation de ses propres ports, mais aussi laisser au privé le temps aussi de se développer.
Professeur,
mais tout ça,
professeur des
instruments juridiques et stratégiques.
Professeur Ursile, vous avez suivi Joseph de Calémy s'interroge. Il dit au niveau de ces ports privés, il retrouve les services de l'État, les commissariats maritimes, la DGM, la quarantaine et autres services. Alors il se demande comment expliquer cela.
C'est que au départ, nous sommes partis d'une situation où il y avait des ports privés exclusifs à des sociétés comme la BTS, comme par exemple la société Docolo à l'époque avait ses propres ports, et comme la Bralima, qui sont des sociétés privées qui avaient des ports qui étaient agréés au niveau du ministère des Transports. Mais c'était leurs ports privés, non pas des ports à caractère commercial. C'était des ports privés et non des ports à caractère commercial. Alors, mais maintenant, nous sommes dans une situation de concurrence où les nouveaux ports privés livrent le même service que la SCTP. Mais entre-temps, l'État n'essaye pas de mettre en place un cadre juridique approprié. Et de l'autre côté, il y a quand même une certaine opportunité des services de l'État qui se donnent le pouvoir de contrôler ces ports, de faire des impositions, tout ça. Et c'est ça même la nécessité de mettre en place un cadre approprié pour essayer d'organiser les secteurs. Parce que le problème se pose de deux facettes. Il y a déjà une certaine anticipation.
Bien,
pour
professeur,
les services de l'État.
Professeur, un instant, on va accueillir un auditeur de Mbandaka. Petro, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons des conditions d'ouverture. C'est bien que le gouvernement envisage la fermeture des ports et à l'occasion, on voudrait savoir quelles sont les conditions auxquelles il faut répondre.
Oui, vous savez, le secteur privé peut contribuer efficacement au développement de notre pays. L'État, à un moment donné, doit développer un partenariat avec le secteur privé en impliquant la société civile. Nous savons que tous les tenants des ports privés ne sont pas illégaux. Il y a des autres qui se conforment aux lois ou aux réglementations en la matière. Mais l'État doit d'abord identifier tous les ports et voir ceux qui sont en ordre avec lui et ceux qui ne sont pas en ordre. Il doit rassembler toutes les parties prenantes et ses services et la société civile et les tenants de ports privés pour mettre en place une réforme, une entrée d'amorcer en répondant aux besoins de tous et les idées de tout le monde. Puisque l'État, c'est notre père, et si un parent veut prendre les décisions sans tenir compte des situations de ses enfants, en tout cas, il n'y aura pas... ils ne vont pas s'entendre puisque les enfants vont prendre leur position. Mais les parents vont se confirmer. À ce moment-là, les trafics illégaux ou les activités illégales pour les ports vont toujours subsister puisque l'État lui-même, avec tous ces personnels qui sont pas bien payés, ils vont encadrer toujours les mafias à travers les ports privés. Nous, l'État quand même, il doit comprendre le contexte avec lesquels nous sommes en train de traverser. Nous sommes pour les réformes, mais ces réformes doivent impliquer tous les parties prenantes.
Bien, merci. Donc, Pedro de Mbandaka. Merci Pedro, on va donner la parole à Sheda de Kalemi. Bonjour.
Bonjour Radio Kadi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Sheda?
Oui, c'est Sheda Makombe depuis la ville de Kalemi. Nous disons ceci, est-il bonne décision à saluer avec toutes les guerres, étant donné que cela aura un impact positif dans l'économie nationale, tant dans l'économie nationale que tout simplement dans l'économie maritime. Puisque ces ports, tout simplement, qui ont été ouverts illégalement, ont des impacts négatifs dans l'économie nationale. C'est ainsi que les autorités doivent prendre conscience et saluer cette initiative avec toute rigueur afin d'avoir des impacts positifs dans l'économie nationale.
D'abord, une question... Sheda, vous dites que ces ports avaient un impact négatif sur l'économie. Pouvez-vous expliquer davantage, nous démontrer comment cet impact est arrivé?
Voilà, je explique l'impact de cet impact négatif dans l'économie nationale. Par exemple, tout simplement, les différents ports qui ont été ouverts dans les différents lacs en RDC. Vous voyez que ces ports-là, lorsque, par exemple, il y a des ports qui arrivent pendant la nuit, vous allez remarquer qu'on décharge les ports sans pour autant payer les taxes ni les impôts. Et cela constitue même la condition, voire la corruption dans l'économie nationale. Et cela a un impact négatif dans la promotion de l'économie. C'est ainsi que cette démarche est à saluer avec toute rigueur. Et les autorités doivent prendre conscience afin justement de permettre l'applicabilité de cette démarche soit effective.
Bien, merci. Bien, Sheda nous a appelé des Kalemi. D'après lui, ces ports privés doivent être fermés parce que ils ont eu un impact négatif sur l'économie nationale avec des déchargements clandestins sans payer des taxes à l'État. D'après lui, tout ça, ça a eu un impact négatif sur l'économie.
La solution proposée par ou soutenue par Sheda, c'est toujours une solution en
en aval, c'est qu'il s'intéresse aux conséquences et non aux causes. Pourquoi? Parce que c'est, il n'y a pas une opportunité pour le développement du secteur privé portuaire. Voilà pourquoi nous subissons ces conséquences. Et si nous ne voulons pas que ces conséquences s'aggravent davantage, il faut plutôt aller vers la formalisation pour attirer des investisseurs privés à développer ces services pour que cela soit au bénéfice du pays, parce que l'État sera dans les capacités de contrôler toutes les proliférations des ports privés illégaux et voire clandestins, et il est de bon droit et de bonnes politiques publiques.
Professeur Ursil, d'après certains, c'est le commissariat maritime qui octroie les autorisations à ces ports, en violation même de l'ordonnance du 3 décembre 1971 qui reconnaît le monopole seulement à l'ex-Sonatra.
Bon, en réalité, on est dans une situation de vide juridique parce que ce monopole, si elle est légale, est-ce que ce monopole est constitutionnel? Ce monopole n'est pas constitutionnel. Et vous avez vu même que la base légale de ce texte ne correspond pas avec la logique de notre constitution qui prône la libéralisation. Et aussi, il ne faut pas oublier que la plupart des propriétaires de ces ports, ce sont des dignitaires, ce sont des généraux, ce sont des politiciens, et ces ports ne sont pas gérés par des petits métiers. C'est soit par personne interposée, c'est toujours des politiciens, des grands opérateurs économiques avec des couvertures des politiciens ou des différents services spécialisés qui opèrent en toute illégalité ou en toute impunité. Mais le problème, ce n'est pas seulement de voir l'aspect négatif, mais de voir comment transformer les externalités négatives en externalités positives. Comment toutes ces menaces peuvent être transformées en opportunités. Et de l'autre côté, est-ce que la SCPP apporte aussi des infrastructures portuaires tout à fait efficaces et les services entendus? Et aussi avec le développement, l'éclosion de notre économie, est-ce que la SCPP sera à mesure à travers ces infrastructures portuaires à rendre service à tous les opérateurs économiques? Naturellement, à travers le monde, le monopole dans le secteur portuaire a démontré ses limites, d'où la nécessité d'organiser ce secteur qui a un rôle primordial dans l'économie nationale et dans les échanges commerciaux du pays ou dans la quasi-totalité du pays, surtout dans le contexte de la mondialisation et de la globalisation où nous devons avoir un cadre juridique approprié pour aller vers les libres échanges et d'autres opportunités que nous devons amener pour que notre pays se développe.
Bien. Professeur Ursil Lelo Dima Kungu, je rappelle que vous êtes expert en droit des transports à l'Université de Kisangani et vice-doyen chargé de la recherche. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup, l'instituteur à Radio Kati.
Bien, mesdames et messieurs, nous mettons un terme. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission de La Vie au quotidien. Au Capi Service, nous allons suivre les informations et on se retrouve dans la deuxième tranche de cette émission où nous allons revenir sur les conditions carcérales dans les prisons de la République démocratique du Congo où on continue à déplorer des morts à cause de la faim. Les prisonniers ne mangent pas à leur faim, alors on continue à compter les morts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Ne partez pas, restez avec nous et on se retrouve tout à l'heure.